Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue en cette semaine d'élection présidentielle au podcast de la rédaction de Game Info. Salut à toi, TH.
Salut, prenez le pouvoir.
Ouais, prenez le pouvoir, Jean-Luc. Ouais, une vidéo à voir, franchement, tapez sur internet, prends le pouvoir sur moi, Jean-Luc. Vous allez voir, vous allez vous taper des barres de rire. Bon, par contre, la rédaction de Game Info n'est pas responsable si jamais la chanson reste malencontreusement dans votre tête. Bon, écoutez, on va commencer cette semaine d'actualité très chargée, n'est-ce pas, par les indépendants. Et on va commencer donc, comme souvent depuis la dernière semaine, par les projets Kickstarter.
Encore ?
Et... Ouais, encore. Bah écoute, ça va être une rubrique hebdomadaire, je pense, maintenant, hein, parce que, sauf si vraiment il n'y a rien de rien à raconter, je trouve ça toujours intéressant à voir. Alors, pour commencer, on va parler de Grim Dawn. Alors, Grim Dawn, c'est un hack and slash, open world, attention, donc ça veut dire que vous n'êtes pas forcément obligé de suivre la quête principale, comme dans un Diablo, vous avez la possibilité d'aller un peu où vous voulez. Et chose très intéressante, c'est un hack and slash qui est créé par la même équipe que celle qui a créé Titan Quest. Alors, les amateurs de hack and slash sauront de quoi je parle. Les autres, ben, pour vous faire un résumé, en fait, c'était un hack and slash qui se déroulait dans la Grèce antique. Enfin, dans, si vous voulez, dans la Grèce des légendes, quoi. Homère, Iliade, tout ça. Enfin, bref, c'était vraiment un bon petit hack and slash. Et bah écoute, je sais pas ce que t'en penses, ATH, toi qui as vu la vidéo du jeu, mais en tout cas, ils ont du solide là, montré quand même.
Moi, ouais, c'est solide. La vidéo qu'ils ont montré, pour un jeu de ce type, je trouve qu'elle est assez jolie. Mais voilà, après, c'est du hack and slash, ça ressemble à Diablo, comme t'as dit.
Ouais, c'est vrai que dans l'ambiance, quand même, ça a vraiment l'air d'être le Diablo, mais pas le Diablo actuel, quoi. Vraiment l'ancien Diablo. Un truc vraiment très sombre, etc. Donc moi, ça me plaît pas mal. Apparemment, va y avoir des outils de modding qui vont être mis à disposition s'ils atteignent leur but. Donc la possibilité de modder le jeu, etc. Bon, voilà quoi. Mais bon, le plus important, j'ai envie de dire, pour un console, c'est les mécaniques. Donc, vu l'équipe qu'il y a derrière, je pense qu'on peut s'attendre quand même à un jeu vraiment, vraiment bien fignolé. À savoir que les petits gars demandent 280 000 dollars pour leur jeu et pour le moment ils sont à 153 000. Donc c'est un beau succès, hein, parce que ça fait pas longtemps qu'ils l'ont lancé, la campagne.
Ouais, tout à fait. Là, parce qu'il leur reste en plus de 26 jours. Ils devront les attendre, hein, s'il n'y a pas trop de problèmes entre temps.
Ouais. D'ailleurs, ils perdent pas le nord, hein. Ils ont annoncé que, voilà, s'ils dépassaient largement leur objectif, ils pourraient, tu vois, engager des personnes en plus, etc. Parce qu'il faut savoir qu'en plus, là pour le moment, ils sont que deux personnes qui travaillent assez activement sur le projet. Et bon, des fois, il y a des personnes qui se grèvent dessus, mais de temps à autre, tu vois. Et même, ils sont pas plein temps dessus, en fait. Et pourquoi ils demandent une telle somme? C'est vraiment pour pouvoir se consacrer à plein temps au jeu, quoi. Donc, je répète le nom, ça s'appelle Grim Dawn. Si vous aimez les hack and slash, je pense que c'est vraiment un jeu à suivre. D'autant plus qu'on, contrairement à certains Diablo 3, il n'y aura pas de connexion permanente. Alléluia.
Ah bah tant mieux alors, parce que pour les jeux solo, vraiment, avoir, si tu veux jouer en solo et pas en multijoueur et avoir une connexion permanente, je trouve ça un peu chiant, tu vois.
D'autant plus pour un jeu comme celui-là qui, contrairement à Diablo, est vraiment orienté solo, quoi. Donc, une affaire à suivre. Ensuite, je vais vous parler d'un jeu qui nous vient du Bélarus. Eh oui. Alors, je sais pas comment ils ont fait pour passer les barrages de Kickstarter anti-non-américains, mais je pense qu'ils ont dû prendre un partenaire US qui a un compte en banque aux États-Unis, mais bon. En tout cas, c'est messieurs du Bélarus, après une vidéo qui respire fort le jeu de rôle grandeur nature, n'est-ce pas? Je sais pas si t'as vu le début de cette vidéo ATH ou...
Si, bah, je l'ai vu, la vidéo, elle est... Franchement, je trouve elle est super, tu vois, les développeurs, toute l'équipe, en fait, l'équipe qu'il y a dessus, ils sont tous déguisés en chevalier, moine, enfin, chevalier, magicien, etc., archer.
Mais c'est pas du déguisement en toc, quoi. C'est du déguisement chez déguisement, c'est des vraies armures, quoi.
Comme ça, ils ont des bonnes têtes.
Alors, pour vous présenter un peu, ça ressemble fortement à du Heroes of Might and Magic, sans elfes ni nains. C'est vraiment médiéval, comme jeu. Bon, il y aura peut-être des sorcières, etc., mais c'est vraiment médiéval. C'est pas d'heroic fantasy, quoi. Je vous incite vraiment à voir la vidéo, parce que là aussi, encore une fois, c'est du solide. Les mecs, ils se marrent en se déguisant et tout, mais derrière, ils envoient du lourd, quoi. Donc, ça sera au tour par tour, etc. Ça a vraiment l'air très, très prometteur. Ça a l'air très solide, en tout cas.
Ouais, mais franchement, ils demandent pas beaucoup d'argent pour le jeu. Ils demandent 50 000 dollars. Là, ils sont qu'à 1300. Il reste 29 jours.
Cœur,
hein. Ouais, il reste 29 jours. Comme ça, tu vois le jeu. Bon, franchement, pour un jeu indépendant, la démo technique qu'ils ont montre, C'est assez beau, tu vois, c'est pour un petit jeu comme ça.
Ouais.
Donc ouais, on espère qu'ils atteindront leur objectif. Mais ça va être un petit peu, je pense que ce sera un petit peu dur pour eux parce que celui qu'on a vu juste avant, le nom c'est quoi déjà? Grim,
Grimdown.
voilà, Grim Dawn. Lui, il est déjà, il a presque atteint ses objectifs alors que ça fait 4 jours qu'ils ont déployé leur projet. Là, quand tu vois que eux ils sont que à 1300, ça fait un peu de mal, quoi.
Ouais, bon, après, ils l'ont lancé que hier. Faut
Ouais.
bien préciser ça, mais même à 1300 depuis hier, en général, il faut savoir que les projets Kickstarter, c'est un gros pic au début. Après, ça augmente, mais ça augmente pas tellement. Et après, c'est à la fin où là, t'as un nouveau pic vers le haut. Au rythme où ça va, je pense pas qu'ils atteindront les 50 000. D'ailleurs, toujours à propos de Kickstarter, je voulais évoquer un billet très intéressant qu'il y a eu récemment sur ce site-là. C'est un billet qui a été écrit par l'équipe de Star Command. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Star Command, en fait, c'est un projet Kickstarter qui a réussi sa levée de fonds. Ils avaient demandé 20 000 dollars, je précise. Et c'est un jeu, en fait, c'est une espèce de jeu de gestion d'équipage dans l'espace. C'est un projet iOS, en tout cas, ça va l'air vraiment pas mal. Et pourquoi je voulais vous parler de ce billet-là qu'ils ont posté? Parce qu'ils ont donné des informations très importantes. Et je crois que c'est la première fois que un studio communique là-dessus. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient récolté un peu plus de 36 000 dollars sur leur projet, quand même. Donc ça fait un petit bonus de 16 000 dollars, tu vois, ça fait plaisir, hein.
Ils sont allés aux Bahamas avec.
Et là, tu vois, ils ont commencé à déduire les frais. Et ils se sont rendu compte que ça faisait pas tant d'argent que ça, en fait. Alors, pour vous expliquer un peu, le truc, c'est que ils avaient promis, par exemple, des t-shirts. Parce que je rappelle, Kickstarter, donc t'as plusieurs paliers.
Ouais.
Et en fonction du palier que tu choisis, tu as une récompense.
Mmh.
Et parmi ces récompenses-là, il y avait des t-shirts.
Ouais.
Le truc, c'est que, déjà, pour les t-shirts, les frais, si tu veux, pour faire les t-shirts, pour les expédier, etc. Là, pour eux, ça a été 10 000 dollars, tu vois.
Carrément.
Ouais, clac, 10 000 dollars en moins. Et ensuite, donc là, tu me dis, donc il en reste 26 000 dollars. Ouais, sauf qu'il y a les frais Kickstarter et même parce que tu sais, ça arrive aussi, en plus des frais, que il y ait des problèmes au niveau du débit des comptes, etc., quoi. Ça peut arriver qu'il y ait une couille avec la banque, etc.
Ouais.
Et donc, là, donc ils étaient à peu près à 26 000. Ils sont descendus à 22 000.
D'accord, donc il en reste 2000.
Ouais, donc tu vois, par rapport à la levée de fonds initiale qu'ils avaient demandé, donc ils avaient demandé 20 000, ils ont techniquement 22 000 dollars de cash, quoi. Donc ça fait quand même 14 000 dollars en moins par rapport au chiffre qui a été affiché sur Kickstarter, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais évoquer ce billet,
Tout ça
parce
pour des
que
t-shirts.
c'est. Ouais, tout ça pour des t-shirts, mais c'est un billet très intéressant, je trouve, parce que bon. On est d'accord, les mecs ils sont pas non plus à plaindre, hein. Ils ont quand même eu 22 000 dollars comme ça, c'est la fête. Mais ça veut dire que je pense que c'est un truc auquel les équipes qui se lancent sur Kickstarter ne sont peut-être pas assez préparées, parce que souvent c'est des amateurs et même c'est des gens qui n'ont pas forcément des financiers qui s'occupent de gérer ça. Et je pense que il va y avoir une phase de rodage sur Kickstarter où les gens vont vraiment devoir apprendre à calculer le budget, qu'est-ce que ça va leur coûter de créer des récompenses, s'ils rajoutent des récompenses, est-ce qu'ils mettent des récompenses matérielles sachant que ça va leur coûter de l'argent, ou est-ce qu'ils mettent des récompenses non matérielles sachant que ça a tendance à quand même être moins populaire. Voilà, c'est vraiment ça pose plein de problématiques que je trouve assez intéressantes, et quoi qu'il en soit, ça montre aussi que sur Kickstarter, si tu n'es pas bien préparé, tu peux te retrouver avec des mauvaises surprises à l'arrivée, quoi. Et c'est important d'avoir des personnes qui s'occupent du budget et qui calculent vraiment qu'est-ce qui va coûter quoi. Au final, tu vois, ça fait 14 000 dollars en moins. Et mine de rien, s'ils avaient prévu quelque chose, tu vois, sur le planning de développement et que ça allait leur coûter tant, derrière, t'as 14 000 dollars en moins, ça peut faire du contenu en moins, quoi.
Bah
Donc,
heureusement qu'ils ont eu plus qu'ils avaient demandé,
ouais.
parce que si ils seraient rendu compte de ça, enfin ils auraient eu que 22 000 dollars, tu vois, ça aurait
Ouais.
été plus embêtant.
Ah oui, non, mais t'imagines s'ils avaient eu leurs 20 000 dollars qui étaient. Bah, ça leur aurait pas coûté 10 000 dollars parce que quand tu gardes la proportion, à mon avis, ça aurait fait genre, je sais pas, 5 000 dollars ou un truc comme ça, tu
Ouais,
vois.
mais ouais.
Mais déjà, ça, c'est énorme, quoi.
Ouais, tout à fait.
Donc bon, une affaire à suivre, d'autant plus que j'aimerais aussi évoquer un sujet qui est pas mal revenu cette semaine, notamment sur un billet du site Penny Arcade que je vous incite à aller voir, où il y a un développeur, enfin quelqu'un du milieu qui analyse vraiment Kickstarter. Et surtout, ça parlait de la sécurité pour les acheteurs en fait. Mais quand je parle de sécurité, c'est dans le sens, si le projet n'arrive pas au bout, qu'est-ce qui se passe? Si par exemple, tu vois, les gars, ils reçoivent leur argent, mais que pour une raison X ou Y, tu vois, le projet n'aboutit pas. Alors, moi, il faut savoir que j'ai toujours, à titre personnel, eu une philosophie très simple par rapport à ça. À chaque fois que je donne de l'argent sur Kickstarter, je pars du principe que si ça se trouve, je ne reverrai jamais la couleur de cet argent ni du jeu. Je pars du principe que je prends un risque, parce que c'est un risque, c'est une certitude qu'il y a un projet qui ne va pas aboutir à un moment donné, et c'est une certitude qu'il y a des gens qui vont rester sur la paille. Donc c'est une question qui est souvent revenue ces dernières semaines. Et en plus, il y a pas mal de personnes, tu vois, qui ont analysé les conditions de Kickstarter, tu vois. Et on s'est rendu compte d'une chose. Sur Kickstarter, quand tu lis les conditions, il y a très clairement marqué que si il y a un problème au niveau de la livraison des récompenses promises aux donateurs, c'est au studio de régler le problème. C'est marqué noir sur blanc sur Kickstarter. Ça veut dire que potentiellement, s'il y a une merde, il faudra pas compter sur Kickstarter. C'est vraiment vers le studio qu'il faudra se retourner, tu vois. Alors là, tu vois, je mets un peu à la place d'un mec, d'un donateur et dont le projet a foiré. Je me dis, attends, tu vas quand même pas te retourner contre un studio qui, ça se trouve, est à l'autre bout de la planète. Et si ça se trouve qu'il n'a même plus un centime à donner, parce que en général, tu vois, quand un projet foire comme ça, c'est qu'a priori les mecs ils ont plus un rond.
Ils ont fait faillite.
Voilà. Et donc, sur Kickstarter, quand vous vous lancez, réalisez bien que c'est sans filet de sécurité. C'est vous donner pour un projet, mais derrière, il y a un risque pour que ça n'aboutisse pas, quoi. Donc, partez toujours du principe que vous prenez un risque.
Donc faites très attention.
Ensuite, je vais vous parler, évoquer rapidement un jeu qui va sortir bientôt sur Steam, mais qui était disponible depuis longtemps sur le site du développeur. Mais c'est un jeu qui le vaut bien, donc il est passé un peu inaperçu, donc j'en remets une couche.
Est-ce que c'est un jeu L'Oréal?
Non, mais ça s'appelle Noitu Love Chu. C'est un jeu qui a été créé par un petit gars dont le pseudo est Konjac. Donc, Konjac,
Magnifique pseudo.
pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un génie mental de la 2D. Je vous incite vraiment d'aller sur son site, mais vraiment, ce mec est un grand malade. Allez voir ses jeux. Il fait que des jeux en 2D et les sprites sont énormes. C'est juste impressionnant. Et donc, Noitu Love 2 arrive lundi sur Steam. Donc il était déjà dispo, il est dispo sur le site du développeur, il arrive sur Steam lundi. Donc là, pour vous, il sera déjà dispo, donc a priori, parce que ce podcast sort mardi. Et il sera à 4 euros. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Noitu Love 2, alors c'est un jeu d'action en 2D qui rappelle très fortement des jeux cultes comme Gunstar Heroes, tu vois. C'est vraiment un jeu en 2D qui a de la super pêche, il y a des explosions de partout. Lancez-vous dessus, ça déchire.
Ça envoie du lourd hein, quand même. C'est vrai
Ah oui, non,
que
mais ça pète de partout.
même j'ai pensé, ça m'a fait penser, ça me rappelait un petit peu les, tu sais, les Castlevania en 2D, la Metroidvania façon. Et ouais, tu sais, ça m'a fait penser un peu à ça, du Megaman, non, et plus du Contra, tu sais, par exemple, avec les robots tout ça. Mais ça a l'air vraiment nerveux comme jeu.
En plus, t'es d'accord, les sprites, ils sont juste énormes, quoi.
Ouais, c'est franchement, c'est super pour un jeu comme ça. Et je te jure, en jeu 2D, et comme ça, c'est fluide, c'est rapide. Nerveux, un bon petit jeu quoi. Ça me rappelle un peu aussi les contrats. Tu shootes de partout, tu sais, les contrats sur Neo Geo.
Et je précise, le mec est tout seul, hein, donc
Non, il peut pas être tout seul pour faire un jeu comme ça.
Ah, si, si, il est tout seul. Et d'ailleurs, il a fait ça pour financer son prochain jeu. Donc, plutôt que faire une levée de fonds Kickstarter, il a préféré être payé pour ses jeux. Donc, écoutez, allez-y. D'ailleurs, je crois savoir que bon, ATH, tu vas lâcher, hein? On est d'accord.
Non, tu vas me l'offrir, c'est ça?
Attends, t'as rêvé, toi. Tu rêves. Je vais l'acheter pour moi déjà, ça sera bien. Et voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un petit programme en 2D qui s'appelle Tigit. Alors, Tigit, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un programme qui ressemble un peu à Steam, si vous voulez. Sauf que c'est pour les jeux indépendants. Et en fait, c'est un programme qui open source, dont la mission est de répertorier l'ensemble des jeux indépendants, et de préférence les jeux indépendants gratuits, n'est-ce pas? Et donc là, ils sont lancés, ils ont mis le programme en téléchargement. Pour l'instant, il y a 250 jeux gratuits. Donc écoutez, si vous êtes à la recherche de petites perles, mais que vous ne savez pas trop où regarder, écoutez, téléchargez Tigit. Il y a déjà une liste de 250 jeux gratuits dessus, et a priori, ils vont la mettre régulièrement à jour, et vous pourrez les télécharger, etc. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Toujours chez les indés, on va parler du Humble Bundle, et oui, on va reparler du Humble Bundle, mais cette fois, c'est un Humble Bundle un peu spécial, parce que c'est dédié au studio Amanita Design. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Amanita Design, c'est ceux qui ont fait entre autres Machinarium, dont on vous avait parlé dans ce podcast. Alors Machinarium, vous savez, ce jeu avec ce petit robot en mode point and click, vraiment très sympathique. Et donc ils ont créé un bundle pour le lancement de leur nouveau jeu. Encore une fois, c'est un point and click, et ce point and click s'appelle Botanicula. Qu'est-ce que c'est Botanicula? Bah, comme dit précédemment, c'est un point and click, mais dans un univers un peu particulier. C'est un univers, Botanicula, botanique, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà, c'est avec des plantes. En fait, vous allez jouer des espèces de créatures dont la mission va être de sauver leur environnement naturel. Et bon, ça a l'air vraiment artistiquement, c'est superbe, vraiment. Les jeux qui vont accompagner ce bundle de lancement, en plus de Botanicula, donc ça va être Machinarium, Samorost. Donc vraiment de très bons point and click signés Amanita Design. En plus, en supplément, parce que donc comme d'habitude avec les bundles, si vous payez plus que la moyenne des participants, vous avez un petit bonus, quoi. Et ce bonus, donc, c'est Cookie. Alors, ce n'est pas un jeu, c'est un film d'animation fait par les petits gars d'Amanita Design. Et c'est aussi un autre point and click qui s'appelle Windowsill. Et ça a l'air d'être un point and click en mode tripartitique et tout. Quoi qu'il en soit, un bundle qui a l'air vraiment sympathique. Sachant que par rapport à d'habitude, il y a une petite modification des règles, à savoir que si vous voulez une clé Steam pour le jeu, parce que normalement il y a une version DRM et une version Steam qui sont disponibles, mais pour les clés Steam, il faudra payer au minimum 5$. Si vous ne payez pas 5 dollars, bon, vous aurez comme d'habitude le jeu sans DRM, etc., que vous pourrez télécharger directement du site Humble Bundle. Il n'y a aucun souci.
Et en ça, on reconnaît bien leur patte graphique de leur présentation de jeu Machinarium. Ça ressemble vraiment bon. L'aspect graphique, ça se voit que c'est le même studio de développement. Tu sais, vraiment, ils ont une cohérence dans l'univers, je trouve.
Ouais. Tu vois les jeux Amanita Design, quoi.
Voilà,
Ils ont une patte, quoi.
leur patte graphique, c'est sûr qu'elle est reconnaissable.
Je répète, donc c'est le Humble Botanicula Bundle, et vraiment ça a l'air pas mal. Bon, c'est tout pour les indépendants cette semaine, n'est-ce pas? Et c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire.
Ouais, ça va.
Et bah écoutez, on va passer maintenant au lourd.
Au gros
Et
jeu bien qui tâche.
ouais, et alors dis-nous, mon cher ATH, alors qu'est-ce que ça donne, God of War 4?
Alors, God of War 4 Ascension, plus que tel est son nom. Donc,
Ouais.
apparemment, d'après le trailer diffusé par le site Amazon, encore lui, ça serait une préquelle sur l'histoire de Kratos, qui se passerait en fait avant qu'il devienne le fantôme de Sparte. Donc voilà, pour l'instant c'est les seuls éléments qu'on a. On attend.
Ouais, en gros, on n'a pas
Voilà,
grand-chose, quoi. On n'a rien.
bah si quand même pour les fans, tu sais que ça serait une préquelle. Et en plus ça, tout à l'heure je t'en ai parlé avant l'enregistrement du podcast. Je trouve qu'en ce moment il y a beaucoup de reboots de séries et de préquelles, comme je te disais avec Lara Croft ou même Dante de Devil May Cry.
Ouais, enfin, là, c'est pas un reboot, par
Non,
contre,
non, non,
on
oui.
est d'accord, c'est vraiment une préquelle, quoi. C'est pas comme Devil May Cry, où là, ils ont carrément changé le design du perso. Là, on restera dans la continuité. Non, parce que Je vais préciser parce que s'il y a des fans qui nous écoutent et qu'on leur parle de Devil May Cry, tu vois, ils vont commencer à paniquer parce que ils voient le nouveau design de Dante et
Bah, apparemment, sur la vidéo, ça serait toujours le même Kratos, tu vois, le même design du Kratos,
Ouais.
avec sa balafre, avec sa peinture rouge sur le côté, etc., sur le corps aussi. Mais bon, voilà, bien sûr, c'est pas un reboot comme a été annoncé Devil May Cry et Lara Croft. C'est une préquelle, donc ça
Ouais.
serait juste le début de comment est-ce qu'il est devenu en fait le fantôme de Sparte, pourquoi est-ce qu'il est devenu, il est un peu foufou, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est ça le pitch. Mais je te disais juste que en ce moment il y a une tendance à, comme je sais pas, les développeurs peut-être ils ont plus beaucoup d'idées, à chaque fois à revenir aux origines. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner.
Bah, en même temps, vu God of War 3, c'est vrai que on voit difficilement comment ils auraient pu, je pense, renouveler, enfin faire une suite. Enfin, moi j'ai pas joué au jeu, mais j'imagine qu'à la fin ils butent
Ouais.
Zeus. Donc a priori il reste plus grand-chose à tuer,
Bah
quoi.
en fait ça va être un petit peu compliqué d'en parler sans spoiler pour ce qui se passe vraiment à la fin de God of War.
Mais
Mais
il y avait le potentiel pour faire une suite ou
clairement non, parce que la fin ça laisse pas suggérer une suite. Mais bon, vraiment à la toute fin, quand ils ont fini le jeu, il y avait un petit truc qui disait comme quoi il pourrait se passer quelque chose. Mais voilà,
Ouais.
mais franchement, si tu joues à la fin, tu comprends bien que voilà, il y a plus rien, quoi. C'est y a personne à tuer. Donc vraiment, il y
Ouais.
avait pas de suite. Donc voilà, c'est juste ça, que ils ont pas eu trop d'idées pour God of War 4, et ils reviennent, ils nous font le pitch classique de revenir au début. On attendra le 3 d'en savoir un peu plus, si ils vont vraiment se concentrer sur parce que tu vois, des fois les teasers, ils peuvent mentir un petit peu. Ils peuvent nous dire ouais, il y aura ça dans le jeu. Alors, et après, ils vont se concentrer sur autre chose. Peut-être que ça sera vraiment juste une petite partie de l'histoire. Mais enfin, bon, je pense que ce sera plus, ouais, notre bon vieux Kratos qui sera jeune. Et on va découvrir
D'accord.
pourquoi il est devenu cinglé.
Bah, un jeu que tu vas attendre avec impatience, en tout cas, toi qui as joué aux 3 épisodes
Moi, j'ai
déjà.
fait 3 épisodes, j'ai fait aussi ceux sur PSP. Ouais, mais bon, comme je t'ai dit, là, en ce moment, les suites, ça commence un petit peu à me saouler, à la fois. La trilogie, c'était bien, mais voilà, il fallait s'arrêter à... Je pense qu'il fallait s'arrêter à la trilogie.
Ensuite, bah écoute, un autre jeu dont on ne sait pas grand-chose, n'est-ce pas? Crysis
Voilà,
3.
Crysis 3 qui était officiellement annoncé par EA et Crytek. Donc, ce qu'on sait vraiment du jeu, c'est qu'il sort sur PC, PS3 et Xbox 360, comme Crysis 2. Et que donc, le jeu se déroulera toujours à New York. Mais le New York aura totalement changé, ça sera un New York végétal, j'ai envie de dire, puisqu'il y aura la forêt qui aura envahi la ville. L'action se situera en 2047. Voilà, c'est tout ce qu'on sait, mais il y a un trailer de la vidéo. On a des images aussi qui montrent un petit peu le jeu. Quand on pense à Crysis, on pense directement à beau jeu. Donc on verra bien ce que ça va donner.
Bon, bah écoute, affaire à suivre. Ensuite, je voulais évoquer rapidement avec vous une news qui, bon, ne nous concerne pas directement nous autres joueurs, mais qui nous concerne quand même. C'est une news assez importante, je pense. Alors, il s'agit en fait des kits de développement pour le PlayStation Store qui ont été mis en bêta ouverte pour les développeurs. Quand ces kits de développement sortiront de manière officielle, il faudra payer 99 $ à l'année. Alors, pourquoi c'est important de savoir cette information? Parce qu'en fait, ce modèle de 99 $ à l'année, c'est exactement le même modèle que celui d'Apple avec les devices iOS. Ça, il faut savoir, c'est une news qui m'a été envoyée par un ami développeur, parce qu'en plus, ça ne concerne pas que la PlayStation Vita, ça concerne aussi les plateformes homologuées PlayStation, et les plateformes homologuées PlayStation, ça veut dire Android. Donc ça concerne aussi les utilisateurs d'Android et donc potentiellement, tu vois, si les développeurs suivent, à un moment donné, on va pouvoir voir débarquer plein de jeux sur le PlayStation Store. Ça peut augurer du bon pour la suite, je
Voilà,
pense.
donc ils vont essayer de faire un peu de concurrence à Apple, avec tous leurs
Ouais.
jeux qui sortent en ce moment. Ouais, le kit de développement, s'ils vont sortir des petits jeux sympathiques comme sur iPhone, etc. Pourquoi pas, mais bon, ça m'étonnerait que les gens qui ont une PlayStation 3 achètent de toute façon des Angry Birds-like, etc. Il y a déjà des mini, tu vois.
Moi, enfin, mais après, il y a besoin de, on peut faire des expériences un peu plus poussées
Ouais, non,
avec,
mais
l'un n'empêche
quand
pas
je te dis
l'autre.
ça, c'est vraiment pour prendre un exemple. Mais bon, tu vois, sur le PSN, il y a déjà des bini sur.
Ouais, mais sur Vita, par exemple, moi, ça peut être intéressant, hein. Pour une console portable, ce genre de jeu, typiquement conçu pour les trucs en trajet, justement, contrairement à la plupart des jeux qui sont, j'ai envie de dire, un peu conçus quand même, malgré que ça soit une console portable, qui sont conçus pour être joués dans le lit. Le fait d'avoir, tu vois, une ludothèque du PlayStation Store dédiée à ce genre de jeu-là, moi je pense que ça peut être très profitable à Vita, par
Ouais, non, mais
exemple.
ça c'est sûr, mais voilà, comme sur la Vita, les mini, ils y sont aussi, hein.
Ouais, mais là, ça va permettre, voilà, c'est, ça peut créer un engouement qui va vraiment enrichir le
Moi,
catalogue,
la
quoi.
seule chose qui serait bien, en fait, ce serait que, parce que comme on parlait de Apple, les prix souvent sur Apple, tu vois, les jeux, ils coûtent quoi, 79 centimes, 1 euro, alors que les mini, c'est quand même 3, 4, 5 euros. Donc, s'ils peuvent avoir une prix qui s'adapte à Apple, tu vois, pour bien jouer du coude. Il faudrait, voilà, ça serait vraiment intéressant pour ceux qui ont une PS Vita, etc., qui veulent jouer dans le métro. Il faudrait, moi je pense que ça serait une bonne politique pour Sony d'adopter cette stratégie. Des petits jeux à 1 euro pour jouer dans le métro vite fait, et voilà. Ça serait bien pour eux.
Mais ce qui est intéressant aussi avec ces politiques-là, c'est qu'il faut bien voir que 99 euros, c'est rien pour un développeur, quoi. C'est vraiment, ça permet aussi aux petits studios, tu vois, de se lancer là-dessus. Et voilà, quoi. C'est très, très intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, bah écoute, on va parler de l'E3. Alors, bon, on a eu les dates de l'E3 cette semaine. Enfin, de trois conférences
Ouais.
surtout. Alors, les trois dates que je vais donner, c'est le 4 juin. La conférence Microsoft aura lieu à 19h. Heure de Paris. Ubisoft, c'est à minuit et Sony, c'est à 3h du matin. On va pas beaucoup dormir le 4 juin. Hein.
Il faudra prévoir du café.
Surtout pour les conférences Microsoft et Sony parce que, oh putain, c'est aussi chiant que les conférences l'année dernière.
Ah oui,
Oh,
avec eux.
à 3h du matin, ça va être
J'espère
chaud.
que j'espère qu'on n'aura pas de
Hein.
j'espère qu'on n'aura pas du Kinect encore ou bien du PS Move, des chiffres sur la statistique, voilà, notre PS3 c'est mieux vendu que l'année dernière. On s'en fout de ça, nous on veut des jeux. Merde.
Non mais à mon avis les chiffres ils vont pas les donner hein. La
Non,
Vita
non, non, non,
ils vont pas les montrer
La vie
hein.
3, la Vita, quoi? On connaît
ils
pas.
vont ouais, non, je sais pas de quoi vous parlez
Et
monsieur.
voilà, donc bah ouais, pour parler de l'E3, on va. Ce que je pense, c'est toi déjà, est-ce que tu attends des jeux, voilà, on va parler de Microsoft, tu attends des jeux sur la Xbox 360, des annonces à propos de Microsoft?
Comment dire?
Oui, non.
En fait, j'essaie de le dire sans paraître pour un troll, mais non, enfin non, tout simplement. Enfin, moi, est-ce que toi vraiment, t'as eu des projets Microsoft qui sont excités? Moi, je veux dire, à part Halo 4, que de toute façon, moi, je sais que voilà, moi, j'attends Halo 4
Ouais.
effectivement, parce que ce qu'ils ont montré, moi, ça m'excite, tu vois. Mais voilà quoi, Halo 4, on sait déjà qu'ils l'ont montré quoi. J'attends surtout des annonces hardware.
On verra bien.
Moi, je pars du principe qu'ils vont rien dire, hein. Comme ça, je suis pas déçu. Mais s'ils disent rien, je pense qu'on va se faire chier,
Ouais,
tu
mais
vois.
donc voilà, il n'y a pas des licences déjà connues de Microsoft que tu attends, je sais pas, par exemple, comme Fable, Gears of War, je
Bon.
sais pas, un autre jeu.
Bah, Fable, peut-être. Faut voir. Mais encore une fois, tu vois, c'est, j'ai envie de dire, comme tu as dit tout à l'heure avec God of
Ouais.
War, hein. Encore un Fable.
Voilà.
Halo, pourquoi je l'attends, par exemple, Halo 4, c'est parce que vraiment, ils ont l'air d'avoir renouvelé pas mal de trucs. Donc, d'ailleurs, on va en reparler tout à l'heure. Donc, voilà. Mais voilà, c'est le seul jeu chez Microsoft que j'attends. Alors, chez Sony, comme ils ont une nouvelle console, bon, peut-être qu'elle sera morte d'ici là, mais.
Oh le troll!
mais, comme ils ont une. Au moins, comme ils ont une nouvelle console, tu vois, je me dis. En plus, vu qu'il faut qu'ils la boostent, tu vois, ça se trouve, ils vont envoyer du lourd. Enfin, j'espère, parce que sinon, là, ça va être vraiment dramatique. Et Ubisoft, par exemple, pour moi, c'était l'une des meilleures conférences l'année dernière à
Ouais.
l'E3. Même si c'est un éditeur que j'apprécie pas personnellement pour tout
À
un tas de
côté
raisons,
DRM.
force est de reconnaître qu'en général, ils envoient du lourd à l'E3. Donc, autant Sony, Microsoft et Ubisoft, ça va, mais Microsoft, franchement, voilà quoi, Halo 4 et what
Et
else?
chez Sony, tu attends un jeu?
Bah, j'attends à être
Tu
surpris.
attends une surprise?
J'attends pas forcément un jeu,
Ouais.
tu vois. Mais vu qu'ils doivent booster la Vita là, surprenez-moi quoi. C'est tout ce que je demande. Surprenez-moi
Bah moi
Sony.
chez Sony, on va dire que j'attends d'en savoir un peu plus sur The Last of Us, l'exclu Naughty Dog, parce que ouais, c'est une nouvelle licence, voilà, tu vois, c'est pas une suite d'un autre jeu. Comme ça, c'est Naughty Dog, les vraiment des développeurs qui maîtrisent la PS3 comme des malades. Il n'y a pas niveau concurrent sur PS3, vraiment, s'ils sont dans, c'est, à mon avis, c'est eux qui dominent la console, tu vois. Niveau graphisme, animation, quand tu vois les, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réussi à porter comme qualité avec Uncharted, c'est sûr que t'es intéressé par The Last of Us. En plus, ça, le pitch du jeu a l'air assez intéressant.
Bon, moi, pour l'instant, je n'attends pas plus que ça parce que pour le moment, à part des cinématiques, ils n'ont rien montré. Mais c'est vrai que c'est un jeu, tu vois, qui peut potentiellement me
Voilà, mais
surprendre.
là, comme on a vu que des cinématiques, c'est pour ça que j'attends la conférence pour avoir plus d'informations sur le gameplay et voilà. Donc une bonne nouvelle exclusivité, de la nouveauté, ça fait plaisir, de la fraîcheur un peu dans ce monde. Et voilà. Et chez Ubisoft, Assassin's Creed 3, j'ai envie de dire, j'attends. Et Far Cry 3 aussi, qui a l'air pas mal. J'ai le 2 que j'ai fait un peu tard, mais j'aime la liberté de mouvement qui est apportée dans le jeu est pas mal. Bon, c'est certes que Far Cry 2 avait pas mal de défauts qui rendaient l'expérience un peu embêtante, mais voilà, le 3, ça c'est un peu retour aux sources comme le premier dans la jungle. Voilà, donc deux gros jeux que j'attends aussi chez Ubisoft. Et Assassin's Creed 3, on attend le renouveau de la série, parce que voilà, après Révélation qui nous apprend rien, et Brotherhood qui est un copier-coller du 2 avec un peu plus de choses, mais Révélation, franchement, par rapport à Brotherhood, il m'a beaucoup déçu parce que la seule chose qui changeait, c'était tu changes de décor, en fait, le gros, hein, c'est tu changes de décor. Après, ils ont voulu mettre un peu des phases de tower défense ratées. Voilà quoi, il faut que la série évolue.
Voilà, bon, écoute, un 2-3 dont on attend des surprises, et puis
Voilà, tout à
voilà,
fait.
et puis
Et
c'est
puis c'est
tout.
tout.
Ensuite, on va parler de Nintendo qui a fait une conférence très récemment, n'est-ce pas? D'ailleurs, notre cher rédac chef avait fait une news pour nous inciter à suivre cette fameuse conférence. Bah, en même temps, j'ai envie de dire, finalement, il n'y a pas eu grand-chose d'annoncer, hein.
Bah, il n'y a pas eu de,
Malheureusement,
enfin,
à part.
à part la nouveauté, n'est-ce pas?
Ouais, bah écoute, à part du Mario et du Pikmin,
Voilà.
c'est pas nouveau, c'est ça chez moi, quoi. Voilà, c'est Nintendo recycle ses licences. Donc, a priori, donc on aura un New Super Mario Bros. 2 sur 3DS.
Il est prévu pour août 2012.
Sinon, on aura aussi un Mario sur Wii U. Idem pour un Pikmin numéro 3.
Bah donc Mario, le cash machine de Nintendo Ultimate, quoi. On sait pas quoi trop faire, on sort Mario, ça fait rentrer des sous-sous.
Bah ouais, là on a envie de dire, mais Nintendo, mais où est la
Ouais,
nouveauté,
bah
quoi?
ça fait depuis un moment que ça sort plus. Alors que quand tu vois par exemple sur la NES et sur la Super NES, toutes les nouveautés qui nous ont sorti de la console à l'autre, ça a été, hop, ils ont sorti quoi sur Super NES? Du F-Zero, Super Mario Kart. Il y a eu quoi? Non, Metroid, c'était déjà sur NES. Il y a eu.
Ah, tu t'es embarqué tout
Non,
seul
mais
là-dedans, hein, moi je te laisse.
attends, il y a eu Star Wing alias Star Fox, voilà, beaucoup de F-Zero, voilà, beaucoup de jeux qui étaient exclusifs, enfin des nouveautés à l'époque, qui ont créé des licences à part entière, mais de la NES à la Super Nintendo, tu vois, il y a eu vraiment un gap de nouveaux jeux. Après la Nintendo
Ouais.
64, on a rien eu de nouveau. Après c'est voilà, depuis la Nintendo 64, en fait, ça stagne, toujours les mêmes licences, Mario, Zelda, Metroid, Nintendo, je sais pas, il faudrait je sais pas, qu'ils trouvent une solution.
Attends, t'exagères, il y a eu Kawashima quand même.
Ah, Kawashima, c'est quoi ces jeux?
Et Nintendogs, alors. Non, mais c'est peut-être des jeux qui te plaisent pas, mais c'est des trucs qui ont marché, que, bon, dans ce qu'ils font, ils le
Non mais
font
moi je
bien,
parle de jeux
quoi.
de gamers, je parle pas des jeux pour des petites filles de 4 ans. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de mémé qui joue à Kawashima, franchement?
Bon, vous l'aurez compris, ATH.
Non mais parce que Nintendo, tu vois, ça me fait mal. C'était quand j'étais gamin, tu vois, c'était Nintendo, Nintendo pour moi c'était un truc de folie. Alors que maintenant, voilà, je joue à Wii Fit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout?
Puisque t'es bien lancé là, je crois que tu voulais parler d'un troll cette semaine, je crois que ça concerne Nintendo, donc est-ce que tu pourrais continuer? Ça a l'air pas mal ton truc
Le
là.
troll, il n'a pas été lancé par moi, hein. Comme ça, ne m'attaquez pas, vous inquiétez pas, j'aime bien Nintendo toujours, hein. J'ai une Wii d'ailleurs, même si je m'en sers pas. Donc alors, le petit troll de la semaine, j'ai envie de dire, a été lancé par Trent Oster, fondateur du studio Beam Dog, qui à la base il a été interrogé pour une éventuelle suite de Baldur's Gate et Onset Edition.
Ouais, parce qu'il faut savoir qu'en fait, Beamdog, c'est le studio qui s'occupe donc du remake de Baldur's
Voilà.
Gate. Et donc, on les a interrogés pour savoir, Baldur's Gate 3, c'est pour quand, mec? Tu nous fais chier avec ton remake?
Et voilà, et donc le journaliste lui a demandé s'il comptait sortir le sur Wii U. Sa réponse au début ne troll pas beaucoup, hein. On ne développe pas pour Nintendo. Notre précédente expérience avec Nintendo était suffisante pour nous assurer qu'il n'y aurait pas d'autre. Et après, il rajoute, mes problèmes avec Nintendo sont les 6000 copies vendues nécessaires pour avoir un paiement, un processus de certification qui nous a pris 9 mois et la limite des 40 MO. Voilà, donc là, pour l'instant, vous me direz que...
Bah, ça me paraît, pour l'instant, tu vois ce que tu me dis là, ça me paraît légitime comme critique, hein. C'est pas du troll, c'est une
Voilà.
critique. C'est un peu acerbe, peut-être, je sais pas, mais ça me paraît pas illégitime comme
Non,
remarque en
là,
tout
pour
cas.
l'instant, j'ai gardé exprès la dernière phrase, assassine. Donc, je vais vous la dévoiler tout de suite. C'est Nintendo n'est pas une bonne plateforme pour les développeurs. La Wii est un jouet, pas une console. Voilà, donc, ce n'est pas moi qui l'a dit, je le répète.
Ouais, allez, avoue, au fond de toi, tu le penses un peu.
Bah, oui. C'est vrai que je le rejoins sur ce point.
Oh mon Dieu. Ouais, non, personnellement, je me désolidarise complètement
Ah,
de
le
la
lâche,
TH.
alors qu'il, hors podcast, il m'a dit, ouais, c'est vrai, t'as raison.
Non, non, ce n'est pas vrai, ATH. Je ne dirai jamais d'une console Nintendo que c'est un jouet. Parce que, enfin, déjà, moi, si tu veux, c'est un discours qui a tendance à m'horripiler, par exemple, quand c'est des gens, genre le gars de Quantic Dream, là,
David
David
Cage, ouais.
Cage, qui dit que les consoles, c'est des jouets, etc. C'est un discours qui m'insupporte. Parce que je trouve ça, je ne supporte pas ça. Donc, c'est sûrement pas moi qui vais dire
Bah.
ça. Donc,
Non, mais moi j'ai dit ça pour présenter, bien sûr. Ben, la Wii, c'est pas. Il y a des bons jeux sur la Wii, c'est sûr et certain. On a eu d'ailleurs récemment, il y a eu des gros jeux qui sont sortis pour la fin de vie de la Wii, comme Wonder Wars Tower, The Last Story, Xenoblade Chronicles, c'est ça?
Ah oui, il y a un très bon jeu
Voilà.
Xenoblade.
Et donc des bons jeux. Après, il y a eu bien sûr les classiques, Mario, Zelda. La Wii, c'est une bonne console, mais il n'y a pas eu. Pour moi, en fait, la Wii, ce qui lui manque pour les gamers, c'était vraiment des gros jeux. Des grosses licences exclusives, des jeux qui auraient pu suivre, pour les gamers qui auraient suivi l'actualité au fil du temps, avec un catalogue assez fourni.
Là où j'aurais nuancé quand même, c'est que des licences, il y en a eu. D'ailleurs, tu viens de les citer. Le problème, c'est la quantité par rapport à la
Voilà, bah c'est ça que je voulais
concurrence.
dire.
Voilà, c'est vraiment c'est ça quoi. Bon, quoi qu'il en soit, un bon petit troll. Merci Trend.
Merci Trendoster, c'est gentil.
Pour finir avec l'actualité, on va parler des dates. Alors, ça y est, on a eu des news sur la date de Halo 4 que j'évoquais tout à l'heure, le 6 novembre. Bah écoute, moi, un jeu que j'attends vraiment avec impatience parce que pour le coup, ils ont l'air vraiment d'avoir renouvelé un peu la licence. Enfin, ils ont l'air de vraiment vouloir dépoussiérer le truc. D'autant plus que ce n'est plus le même studio, donc on peut espérer enfin qu'il y ait des
Ouais,
nouveautés,
parce que
n'est-ce
maintenant
pas?
c'est 343 Industries qui s'occupe du développement du jeu.
Ouais, et donc plus Bungie qui est donc le développeur historique de
Voilà,
Halo.
donc voilà, on va Halo 4, peut-être le renouveau pour les fans. J'espère que
Ouais.
343 Industries va assurer, parce que les fans de Halo, je sais qu'il y en a vraiment beaucoup. On verra bien ce que ça va donner. Et voilà, donc un jeu à suivre.
Ouais, ensuite on va parler de Binary Domain. Alors lui c'est le 27 avril qui
Donc
débarque.
bientôt.
Alors franchement c'est un jeu qui, il faut savoir, donc c'est un jeu signé Sega qui s'est pris un bide mais énormissime. Donc il débarque le 27 avril sur PC. Donc c'est un third person shooter qui est vraiment, enfin l'idée derrière c'est que comment dire, vous allez pouvoir utiliser votre micro pour parler avec vos coéquipiers, n'est-ce pas? Et en fait, ce que j'avais compris, c'est qu'il y avait un logiciel de reconnaissance vocale. Et en fait, il va reconnaître certaines phrases, quoi. Tu vois, genre si tu dis à une nana, ouais, t'es belle, etc. Elle va te répondre une réponse gênée et tout. Enfin bref, ça avait l'air vraiment pas mal. En plus, les combats avec les basses, ça avait l'air vraiment assez bien conçu. Mais bon, malheureusement, il s'est pris Mass Effect 3 dans la face sur console, donc.
Ouais, mais
Il a fait
et
un
pour
peu un
revenir à
regret, quoi.
la reconnaissance de vocale, j'ai vu que sur PS3 Xbox 360, j'ai vu une vidéo test en fait sur internet d'un mec, et apparemment il y a beaucoup de soucis à ce niveau-là. Par exemple, d'un moment le mec il a voulu juste dire suis-moi, et la coéquipière avec qui on est, une asiatique, a compris salope. Et non, mais
Mais vous
je te
comprenez
jure.
rien les mecs, c'est pour le réalisme, tu vois, c'est parce qu'il y a des explosions et tout, et en fait le chumois ça s'est transformé en
Ah non,
salope,
alors
tu
là,
vois.
au moment où il a dit ça, il n'y avait pas du tout d'explosion, il était dans les escaliers, il n'y avait rien du tout. Alors là, quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire. Et voilà. Et sinon, vous, sur le site, vous pouvez lire le test de la version PS3 et Xbox 360 fait par notre cher Olivao.
Voilà. Ensuite, on va parler malheureusement de retard. Eh oui, ça arrive. Darksiders 2 repoussé. Bon, en même temps, pas beaucoup, j'ai envie de dire, hein, parce que il était prévu le 29 juin. Finalement, il sortira en août. Bon, ça fait un peu plus d'un mois d'attente, quoi. C'est pas non plus.
C'est un scandale, monsieur! Non, bah oui, si c'est pour régler les derniers petits trucs, les bugs, tout ça, autant qu'ils prennent leur temps, ça sert à rien de se précipiter comme un certain Mass Effect, j'ai envie de dire. Voilà, prenez votre temps, les mecs, développez le jeu, sortez-nous un truc qui tue.
Ouais, et aussi donc la sortie de Ryzen 2 qui est repoussée sur console, je précise, aux 3 août prochain, sachant que la version PC débarque également le 27
Tout à
avril.
fait.
Donc bon, moi c'est un des jeux que j'attends là. Malheureusement, j'aurai peut-être pas le temps d'y jouer, mais c'est vraiment un RPG dans l'univers de la piraterie. C'est suffisamment rare pour me faire envie. Bon, bah écoutez, c'est terminé pour l'actualité cette semaine. On va passer à notre jeu du moment. Et le jeu du moment, cette semaine, c'est un jeu indépendant que j'attendais depuis très longtemps. Et ce jeu indépendant, c'est Sword and
Oh
Sorcery.
yeah.
Sorcery. Pour les trois pèlerins au fond de la salle qui n'auraient pas suivi un peu l'actualité iOS, qu'est-ce que c'est? Alors déjà c'est un jeu du studio Super Brother, n'est-ce pas? Et ce jeu en fait, pour vous présenter le concept, bah tout simplement c'est un point and click. Pour vous dire, j'ai jamais vraiment compris les tergiversations de certains qui le classifiaient dans action parce qu'il y avait des combats. Pour moi, c'est un pur point and click, y a pas à chier, quoi. C'est un jeu, je veux dire, où tu avances dans tes tableaux, il y a des énigmes à résoudre. A priori, c'est un point and
Et
click.
les combats, ils se passent comment? Ça se passe en temps réel, c'est comment?
Ouais, c'est en temps réel, et en fait, tu as deux boutons, un pour attaquer et un pour parer. Et donc, en fonction de ce qui se passe en face, parfois tu vas avoir un mini QTE, genre qui te balance un rayon à laser pour qu'elle esquive, il faut appuyer sur le bouton bouclier pour qu'elle fasse l'esquive. Et voilà, enfin c'est très simpliste comme combat. Et franchement, je vous le dis d'avance, ça fait pas du tout partie de l'intérêt de l'expérience, quoi. C'est sympatoche, mais ça va pas plus loin, quoi. Alors, pour tout vous dire, je suis assez emmerdé pour vous faire ce test, parce que en fait, c'est un point and click qui n'invente rien, qui est très classique. Et bon, et finalement, qu'est-ce que tu veux dire sur un jeu
Bah
comme
déjà
ça?
ce que je pense, tu pourrais parler de l'aspect graphique qui est particulier quand même.
Ouais, il faut savoir en fait que déjà c'est un jeu qui a une direction artistique vraiment très particulière parce que c'est vraiment du pixel art. Alors ça ne plaira pas à tout le monde, c'est clair, mais en tout cas, on ne peut pas y retirer un truc, il est très joli et il y a une identité visuelle quoi. Je suis rentré dedans direct, c'est superbe, j'ai adoré. Ensuite, au niveau de la bande-son, encore une fois, ça c'est vraiment, ça envoie du gros pâté. On est transporté dans un autre univers et voilà, la bande son accompagne merveilleusement bien le jeu et je pense que je vais me procurer l'OST. Enfin, pour moi, la force, vraiment la grande force de ce jeu, outre des énigmes qui sont vraiment plutôt pas mal pensées, ça va jamais chercher bien loin. Je vous assure, c'est pas non plus un de ces point and click où tu passes 3 heures à chercher la solution. Il y a quelques très bonnes idées, notamment par rapport aux phases de la Lune, mais je n'en dirai pas plus. Mais ce qui m'a surtout marqué, en fait, c'est cette ambiance, c'est cette histoire, c'est ces petits clins d'œil à Zelda, mais qui, en fait, ça revit. Je sais pas, j'ai l'impression, en fait, qu'ils ont essayé de revisiter un peu le mythe de Zelda, si tu veux. Sauf que, enfin, y a énormément de clins d'œil à Zelda, sauf qu'ils racontent leur propre histoire, et c'est vraiment, je vous le dis, c'est une histoire très émouvante. Qui se finit en vraiment en apothéose, enfin, j'ai adoré. Et voilà, c'est un très beau jeu, une très belle histoire, qui n'invente pas la roue, très clairement, mais qui vaut le coup si vous aimez les jeux à histoire, avec de l'ambiance,
Ouais.
avec quelques énigmes sympas. Clairement, vous n'allez pas y jouer pour les combats, vous allez y jouer voilà, pour tout ça, mais pas pour les combats, quoi. Voilà. Donc un test court, mais j'ai envie de dire à peu près aussi court que le jeu, parce qu'il faut savoir que il se termine en à peu près 5 heures. Une précision quand même, parce que c'est un truc que j'ai pas pris en compte. Malheureusement, il y a un aspect du jeu que je n'ai pas pu explorer. Ils intègrent des outils sociaux dedans, tu sais, tout ce qui est Twitter, etc. Et le truc, c'est que moi, je n'ai pas de compte Twitter et je ne compte pas m'en
Ouais,
créer.
bah juste pour jouer à un jeu, les trucs Twitter, Facebook, c'est assez relou, quoi.
Pour en avoir discuté avec des gens qui ont joué avec le compte Twitter, apparemment ça ne change pas la fin, enfin ça ne change rien. D'ailleurs je précise, même si j'avais un doute là-dessus, mais apparemment il y a vraiment une seule unique fin. En tout cas, moi j'ai pas bien compris ce que ça foutait là. Et à chaque fois, tu vois, moi ça m'agace, tu vois, tous ces trucs, on te met un truc extérieur comme ça.
Moi, je suis du même avis que toi sur ça.
Après, je serais parfaitement incapable de vous dire ce que ça apporte, mais en même temps, j'ai envie de dire tant pis pour eux. Moi, je ne vois pas pourquoi je me créerais un compte Twitter pour jouer à un jeu, quoi. J'ai rien contre, tu vois, qu'on ait, tu sais, des jeux qui tentent des expériences comme ça, d'interactivité avec le monde extérieur, mais que ça se fasse en dehors des réseaux sociaux, des trucs comme ça, quoi, que n'importe qui puisse
Ouais,
l'utiliser.
je suis d'accord avec toi parce que quand tu vois par exemple comment dire tu vois par exemple, Assassin's Creed Révélation en parlant de lui
Ouais.
bah ils m'ont proposé des trucs des interactions en fait tu continuais ton histoire enfin tu continuais pas ton histoire mais tu pouvais jouer à un mini-jeu sur Facebook je crois et après ça se répercutait sur le jeu de ta console en fait moi j'ai pas de Facebook j'ai pas envie de créer un Facebook pour juste pour avoir
Ouais.
des petits trucs en plus. Enfin, ça, je crois que c'était des trucs intéressants, c'était pour le multijoueur, je pense. Donc, tu vois, c'est des trucs que voilà, si t'as envie je crois, pour débloquer des nouveaux personnages ou des skins, ça peut être sympa, mais en dehors des réseaux sociaux, ça aurait été mieux. Je sais pas, par exemple, aller sur le site d'Ubisoft et jouer au jeu sur place et mettez votre ID PSN.
Je me rappelle plus du nom du jeu, excusez-moi, mais par exemple, je me rappelle d'un jeu. Il y avait une page sur Internet, tu rentrais ton numéro de portable. Et à un moment donné, ce qui se passait, c'est que il t'envoyait genre un SMS, ça interagissait avec le jeu, et c'était excellent. Je me rappelle un pote, il m'avait dit qu'il avait reçu le SMS à minuit et tout, et il dormait, il fait putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, il voit que c'est un truc du jeu et tout, il fait waouh,
Bah
c'est
allez,
quoi
je vais
ce
pas
truc?
dormir.
Enfin, et tu vois, ça c'est excellent. Quoi qu'il en soit, rassurez-vous, moi je n'ai pas re ressenti une sensation de manque malgré le fait que je pouvais pas utiliser ça. En tout cas, vraiment un jeu à essayer. Bah voilà, c'est terminé pour votre jeu du moment cette semaine, messieurs
Donc,
dames.
on le compagne?
Le tyran Seal of Approval, et nous allons passer au point culture. Et le point culture cette semaine, écoutez, c'est une série culte qui me tient très à cœur et dont je tenais absolument à vous parler. Et cette série, c'est Cowboy Bebop. Thank you.
the scene, get everybody and the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Il y en a, comme notre ami ATH, hein, ouais, parce que je balance là. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Cowboy Bebop?
Bah attends, si je connais pas, hein, on dirait, on peut pas tout connaître, mon cher ami.
Ouais, non, mais Cowboy Bebop, quoi, merde, sérieux les mecs, quoi. bon, très sérieusement, Cowboy Bebop, c'est quand même une série culte de la fin des années 90. Une série d'animation japonaise dirigée par une légende de l'animation japonaise qui s'appelle Shinshiro Watanabe. Alors désolé si je prononce mal le nom, mais à chaque fois j'ai du mal avec les je sais plus si c'est Natabe ou Wata, enfin bref, c'est le bordel. Mais en tout cas, c'est un réalisateur que je vénère, n'est-ce pas, parce qu'il est aussi à l'origine de petits trucs comme ça, genre Samurai Champloo, voilà, enfin vraiment quelqu'un qui a un superbe pédigré. C'est une série aussi qui a une bande-son, franchement, qui est mémorable, une bande-son signée par Yoko Kanno, une bande-son jazzy qui pète le feu, qui, je vous assure, elle est dans mon lecteur MP3 et elle tourne en boucle, cette bande-son. Alors certes, il y a eu du plagiat, n'est-ce pas? On va pas se le cacher, mais ça rentrait tellement bien dans la série qu'on s'en foutait pas mal. Donc, pour vous présenter un peu cette série quand même, parce que là, je divague, mais j'imagine que comme notre cher ATH, les jeunes générations, ça se trouve, ne connaissent pas cette série, et ce n'est pas normal. Cette série, alors ça nous parle de chasseurs de primes, mais pas n'importe quel chasseur de primes, tu veux, c'est des chasseurs de primes qui sont dans l'espace. Et ça nous parle donc de ce petit groupe de chasseurs de primes qui sévit à bord d'un vaisseau qui s'appelle le Bebop. Alors, il faut savoir que le bebop, si je me souviens bien, c'est aussi un mouvement de jazz, je crois, etc. Donc, ce n'est pas un hasard si les musiques de cette série ont ce genre de sonorité, n'est-ce pas?
C'est un petit clin d'œil. Hein.
Ouais. Nous allons suivre les pérégrinations de Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine et Ed. Écoutez, vraiment, l'une des grandes qualités de cette série, mais c'est peut-être aussi l'un de ses principaux défauts, c'est que, en fait, si vous voulez, chaque épisode est un court-métrage. Il y a bien une intrigue principale, si vous voulez, qui sert de fil rouge à la série, mais d'une, elle est que dans certains épisodes. Et ensuite, c'est pas le point central de cette série. Le point central de cette série, c'est vraiment, à chaque épisode, t'as l'impression de revoir un nouveau truc, même si c'est les nouveaux personnages, etc. T'as un court-métrage en face des yeux de 25 minutes, et à chaque fois, les mecs vont t'en mettre plein la vue, quoi. Et c'est une série qui se renouvelle à chaque fois sur le plan de la dimension artistique. C'est une série qui, en un épisode de 25 minutes, arrive à te faire chialer sur des personnages que tu ne connaissais pas 25 minutes avant. C'est pour vous dire la puissance du truc, quoi. Cette série balance du lourd. Il faut absolument la regarder. En plus, bon, je ne vais pas vous spoiler la fin, mais ce n'est pas un hasard si la fin de Cowboy Bebop fait partie des fins les plus cultes de l'histoire de l'animation japonaise. C'est vraiment énorme. C'est une série émouvante, c'est une série drôle, c'est une série qui s'est passée du rire aux larmes. Et c'est une série, bref, excellente que je vous recommande.
Et donc, pour revenir à ce que tu as dit sur Cowboy Bebop, le mouvement jazz bebop, ça a été créé à peu près dans les années 1940. C'est pas un mouvement qui a perduré assez longtemps, c'est ça s'est arrêté vers les années 1960. Mais c'est vrai que voilà,
Ouais.
et à mon avis, cette série, c'est un hommage à ce genre de musique. Et est-ce que tu savais qu'il y avait deux jeux vidéo qui étaient sortis sur Cowboy Bebop?
Non, mais ça m'étonnerait pas qu'ils soient pourris.
Bah, il y en a deux qui sont sortis, mais apparemment, ils n'ont pas dû sortir en Europe. Ils sont sortis sur PlayStation et PlayStation 2.
Alors, franchement, juste pour ajouter une chose quand même, parce que il faudrait que j'insiste quand même sur un point, c'est je pense c'est pas insister sur les personnages quand même. Ce qui est très fort dans cette série quand même, c'est que malgré le fait que t'es pas un fil rouge, je sais pas, il se dégage quelque chose quoi de cette fille équipe. T'as Spike déjà, tu vois, qui est enfin cette espèce de dandy nonchalant qui a un passé, tu vois, mais tu sens qu'il a un passé lourd, mais d'un autre côté, ça jure tellement avec son côté insouciant, rigolard, etc. Puis à côté, t'as Jet Black qui est un peu, tu vois, le vieux policier avec de l'expérience, le mec, tu sens qu'il a de la bouteille et voilà, il en a sous le capot. T'as Faye Valentine, vraiment le modèle de la femme fatale que tu rêverais d'épouser, tu vois, mais que tu n'épouseras jamais parce que vraiment cette fille est sensationnelle. Avec Viconia dans Baldur's Gate et Mytel dans Galaxy Express 999, c'est vraiment un de mes personnages dont je suis tombé amoureux, je pense, parce qu'elle a une personnalité, un brin de folie, tu vois. C'est la nana, si tu veux. Elle passe son temps dans les casinos, elle est un peu flambeuse, elle a une montagne de dettes sur elle. Enfin, bref, c'est la nana qui a le don d'attirer la merde partout où elle va, quoi. Parce qu'elle fout la merde partout, et elle a plein d'ennemis. C'est un personnage excellent, aide le pirate informatique qui est vraiment complètement barré. C'est un gamin, mais il est à moitié cinglé. Bref, une série vraiment à découvrir.
Eh ouais, donc Cowboy Bebop, apparemment une série culte, même si je connaissais pas. Moi, quand j'étais petit, c'était...
Ah non, mais ATHS, c'est pas possible là. Il va falloir que tu corriges là cette
Attends,
semaine.
attends,
Hein, tu vas
attends, attends.
promettre.
Tu sais ce que je vais faire? Tu sais le petit truc que tu m'as donné là sur Dailymotion pour regarder les épisodes? Bah, je vais les regarder.
Mais je sais pas s'ils ont mis les Cowboy Bebop d'Ibex, parce que je précise, donc c'est d'Ibex qui édite Cowboy Bebop, et ils ont une chaîne où ils diffusent régulièrement des nouvelles séries. Mais je sais pas si par exemple, tu vois, ils ont.
Bah, si ça ne passe pas, bah, je suis désolé, je ne téléchargerai pas, monsieur.
Bon, c'est vrai que je comprends que les jeunes ne la connaissent pas, mais si vous ne la connaissez pas, il va falloir la regarder parce que ce n'est pas culte pour rien. Alors bon. Ça ne plaira pas à tout le monde quand même, je pense, parce que c'est vrai que la structure narrative qu'ils ont adoptée, le fait que tu n'aies que certains épisodes clés qui fassent avancer l'intrigue principale, je pense très clairement que ça ne plaira pas à tout le monde non plus. Mais moi, le fait, tu vois, de me retrouver à chaque fois avec un court-métrage, j'adore ça, quoi.
Ouais, bah en fait ça peut être si on prendrait par exemple le cas dans les, on va dire, si on prenait ça dans un jeu vidéo, ça serait comme si par exemple, je sais pas, par exemple, on va dire un Skyrim, tu viens, tu joues le jeu, t'as la trame scénaristique et à côté t'as toutes les missions annexes qui sont super bien écrites, ils sont bien écrites tout ça, et donc on va dire c'est comme si tu avances, tu ferais un peu des quêtes secondaires entre temps, et après quand tu voudrais revenir vers la trame principale tu continuerais, quoi, non?
Si tu veux, parce que je suis pas sûr que la comparaison avec Skyrim soit bien choisie, parce que moi, le problème avec Skyrim, si tu veux, c'est que c'est typiquement un jeu où j'ai du mal à me créer un affect vis-à-vis du perso, enfin, des protagonistes, etc., quoi. C'est un jeu que, à ce niveau-là, je trouve que, voilà, c'est pas un jeu qui dégage quelque chose,
Bah,
quoi,
si
au
tu
niveau des
préfères, on va dire
personnages.
The Witcher, par exemple.
Ouais, voilà. Sauf que là, Cowboy Bebop, c'est vraiment une série où je vous le dis, les protagonistes sont en couleur, et même sur un épisode de 25 minutes, les mecs vont réussir à t'introduire des personnages et à les développer de manière à ce que vraiment t'es triste à la fin de l'épisode de les quitter, quoi. Et ça, je connais aucune. Enfin, j'exagère. Il y a quelques séries qui ont réussi à faire ça, mais c'est vraiment une série assez unique en son genre, quoi. Et en plus, il y a la direction artistique, j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment. Enfin. Ça a pas, tu sais, ce look un peu générique, tu sais, qu'ont les animes d'aujourd'hui, quoi.
Ouais.
C'est une série qui a une identité visuelle très forte, et franchement, l'animation aussi, elle bute. Je veux dire, il y a des combats dans cette série, des séances de kung-fu, tu vois, où les mecs, l'animation, oh putain. Ce que je trouve énorme, c'est que la série fait 26 épisodes, et qu'ils ont réussi à faire une série comme ça. Ça, malheureusement, tu vois, c'est des trucs qu'on voit plus tellement aujourd'hui parce que voilà, les séries ont moins de budget, parce qu'il y a moins de public, etc. Et parce que les Japonais n'arrivent pas à se renouveler et que malheureusement, à part quelques exceptions dont je vous parlerai très bientôt, c'est un peu fade, quoi.
D'accord. Bah ouais, mais donc 26, il y a que 26 épisodes, ça fait, c'est court quand même pour une série.
Que 26 épisodes quand tu le regardes d'une traite, je veux dire,
Oui,
c'est
mais tout le monde n'est pas comme toi, mon cher.
26 épisodes pour une série japonaise, c'est plutôt long, hein. Aujourd'hui, les animes japonais, souvent, déjà, c'est 13 épisodes, et quand t'en as une vingtaine, t'es content, quoi.
Et il dure 25 minutes,
Ouais,
c'est ça?
c'est des 26 épisodes de 25 minutes.
D'accord, donc ça fait un petit.
Et franchement, au niveau de la longueur, je pense que c'est parfait. L'histoire se conclut à la fin et sur un magnifique point final, quoi.
D'accord, c'est pas comme un certain jeu dont on a parlé précédemment.
Voilà. Non, c'est pas du tout ça.
D'accord, bah tant mieux alors. Et puis merde, c'est cul, comme il vous l'a dit, donc regardez là. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Il m'a donné envie d'aller la regarder.
Voilà, c'est terminé pour les podcasts cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aller voter, n'est-ce
Mais
pas?
là, il est un peu trop tard là, parce qu'on est mercredi.
Bah attends, non, 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 il restera un tour. Hein.
N'oubliez pas d'aller voter le 6 mai.
Voilà, n'oubliez pas d'aller voter, c'est important.
Et prenez le pouvoir.
Ciao!
Et salut à tous!